7h45 minutes, bon mardi matin sous le soleil. Vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102-1-88-9-71-102-1. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez participer aux différentes discussions, 88-780-1021, c'est le numéro de téléphone. Quelques personnes qui nous ont texté à savoir c'était qui les bannes dans le montage, parce que ça a passé vite, puis notre champion du jour a bien réussi. Eh bien, c'était les Red Hot Chili Peppers, Eve Six et NoFX. Autre sondage très, très positif pour le Parti québécois. Évidemment, c'est source de motivation. On va parler de tout ça avec le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est en studio avec nous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bon matin.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Je sais que vous êtes en demande, je sais que vous êtes occupé. C'est un plaisir de vous avoir en
studio ce
matin. Je vous
l'avais dit, j'avais toujours du temps, puis ce sera un rendez-vous régulier.
Ben, c'est très, nice. Très, très apprécié. Autre sondage, je le disais d'entrée de jeu, autre sondage très positif pour le parti. C'est une source de motivation, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est aussi maintenant un peu une pression qu'on met sur le parti parce que là, le spotlight est sur le Parti québécois?
Bien, c'est sûr que nos adversaires ont beaucoup plus de temps pour le Parti québécois, à ce point qu'il y a des partis d'opposition qui semblent oublier c'est qui le gouvernement, des fois, là. Mais tu sais, il faut en prendre puis en laisser sur les sondages. On a le potentiel de former un gouvernement majoritaire et de sortir la CAQ en 2026. Ça, c'est indéniable. C'est une possibilité, c'est un potentiel. C'est à nous de travailler puis de bâtir l'équipe en direction de cet objectif-là. Il y en a qui vont dire évidemment que c'est trop haut, trop vite. Ce à quoi je répondrais, j'aime bien mieux avoir du temps pour bâtir quelque chose de réfléchi, aller chercher les gens dont on a besoin, que de me retrouver dans une vague ou dans une situation, on se souviendra là, de la CAQ sur plusieurs sujets, une situation où tu improvises, tu fais toutes sortes de promesses, mais en fait, tu n'as pas eu le temps ou tu n'as pas pris le temps de préparer tes choses puis de vérifier que ça tient. Parce qu'une fois que tu es au pouvoir, c'est pas un cadeau. Là. Si tu n'as pas fait tes devoirs, ça paraît, puis ça revient comme un boomerang en plein visage. Donc, moi, je suis beaucoup plus confortable dans ce plan de match-là où est-ce qu'on a le temps de travailler nos choses, on a le temps de mobiliser notre équipe. Puis là, les sondages, là, ils pourraient monter encore, ils pourraient descendre. Mm-hmm. Ça ne change absolument rien sur notre potentiel. Puis le moment qui est celui de l'élection en 2026.
On a eu une super chronique la semaine dernière avec un des amis du show, Fernel Morissette, qui nous vulgarisait l'idée du cycle électoral. On sait que les élections, c'est quand même dans un bout, puis t'as ouvert la porte là-dessus, vous avez ouvert la porte là-dessus. Ouais. Par rapport à où on est en ce moment et la popularité du parti selon les sondages, c'est vraiment un jeu sérieux à gérer pour en arriver dans 2 ans avec les élections.
Ouais, mais en même temps, faut pas... Moi, je suis plus de l'école de faire ton travail, faire ce que tu as à faire. Puis là, il y a un moment donné, là, mon travail, c'est pas d'avoir les yeux rivés sur des statistiques qui vont bouger. Il y a un effet, par contre, qui est indéniable, c'est qu'on vend 5 fois plus de cartes de membres qu'il y a 2 ans. Juste depuis le début de l'année, on est rendu à 7000 cartes de membres vendues. Donc, ça va très vite. Wow. Donc, ça change notre financement. Et on a une toute petite équipe. Ça change notre manière de travailler. Ça nous permet de s'améliorer. Et à l'inverse, du côté de la CAQ, on se rend compte qu'ils lisent les mêmes sondages, les mêmes projections. Donc là, il y a un certain nombre de personnes qui vont commencer à se remettre en question. Donc oui, ça change les dynamiques à très court terme, mais c'est pas ça le but. Donc il faut en laisser aussi. Il faut arrêter de le regarder, le sondage, accepter qu'il peut aller dans n'importe quelle direction, puis se demander, est-ce que nous, le travail qu'on fait en ce moment, c'est notre plan de match, puis c'est la qualité qu'on veut livrer. Si tu coches oui à ces deux-là, le reste... aller dans bien des directions, c'est pas ça qu'il faut regarder.
Tout à l'heure, vous disiez, faut pas que les autres partis oublient que c'est la CAQ qui est au pouvoir. justement, la CAQ qui est au pouvoir, c'est François Legault, le premier ministre, un ancien péquiste. Puis là, j'ai trouvé qu'il a joué la semaine dernière dans la table libérale en sortant le fameux discours « Un vote pour le PQ est un vote pour le référendum ».
Oui, on aurait dit à nouveau Jean Charest.
Oui, c'est ça, quand même, vous avez trouvé sa stratégie?
Ben, je le laisse avec ses stratégies. J'avais le goût de lui souhaiter bonne chance avec ça. Là. À quelques reprises, j'ai fait le lien avec Capitaine Canada ou Jean Charest. Lorsque vraiment il reprend mot pour mot ce que Jean Charest disait à l'époque, et puis ça lui appartient, mais nous, en tout cas, notre discours, notre corridor, il est là, il est constant. et on laissera les gens juger.
Ouais. Puis vous, c'est un référendum dès le premier mandat.
Oui, nous, on dit, non seulement on est contraint à un déclin linguistique et à des politiques en immigration qui ne tiennent pas la route et qui sont imposées par le fédéral, les gens ont pu se dire la CAQ avec un mandat fort va négocier quelque chose avec le fédéral. Là, on le sait que ça ne marche pas. Puis on est aussi dans une situation où tu as une fonction publique fédérale qui coûte désormais 60 milliards. Là, elle est passée de 40 à 60 milliards en coûts, une augmentation de 40 % des effectifs, en échange de presque aucun service. Et si on récupère tout l'argent qu'on envoie à Ottawa en échange de presque aucun service, là, à part les passeports qui arrivent en retard en passant, et qu'on décide de rediriger ça vers ce qui compte pour nous, là, soigner notre monde, éduquer nos enfants, ça ferait une différence substantielle. Et sans ça, moi, je ne veux pas me retrouver au pouvoir, comme la CAQ, dans une situation d'asphyxie fiscale, de déficit important pendant que les problèmes ne se règlent pas. Et vient donc la question incontournable du fait qu'il y a un gouvernement de trop qui prend presque la moitié de nos impôts puis qui nous donne presque rien en échange. Il faut que ça change. Si on veut vraiment un changement à des problèmes importants et complexes, il faut être prêt à un changement. On ne peut pas juste faire la même chose puis penser que le résultat va être différent.
Moi, je ne l'ai jamais caché. J'ai une tendance souverainiste personnellement, mais j'y crois pas. J'ai de la misère à y croire. Je regarde autour de moi, on dirait que... puis c'est vrai chez les jeunes, c'est vrai pour certains plus vieux aussi. Puis j'ai de la misère à croire comment entre 2, 3, 4 ans, on pourrait en arriver à dépasser le 50 % d'appui à la souveraineté. C'est-tu vraiment quelque chose qui est réalisable?
Bien, est-ce qu'on a le choix? Moi, je pense qu'on est condamné à gagner. Faut le faire. Et je comprends que tu as toute l'histoire du Québec qui, depuis la révolte des Patriotes, qui a été matée très, très violemment, mais aussi les référendums, on est un peu conditionné à visualiser quelque chose qui ne fonctionne pas au lieu de visualiser quelque chose qui fonctionne. Mon travail, c'est qu'on se mette à visualiser des solutions, on se mette à visualiser le peuple québécois qui gagne. Et c'est un travail en continu, mais si je te disais, il y a 2 ans, quand le Parti québécois était à 10 %, si je t'avais dit que le Parti québécois deviendrait à 34 % avec une projection majoritaire, tu aurais dit exactement la même chose. À chaque fois qu'on se fait dire, par rapport à la politique, que quelque chose est impossible puis qu'on devrait avoir peur de l'échec, faut réagir avec vigueur parce que c'est de la pollution. Ce sont des discours qui visent à nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel, à nous empêcher également de trouver des solutions pour ce qui compte vraiment pour nous. Je suis pleinement conscient en te répondant à ça que j'ai du travail devant moi. Je n'ai pas la prétention de faire par magie des choses compliquées, mais j'ai la prétention de travailler de manière constante à un objectif et que cet objectif-là amènera des solutions qui, pour l'instant, sont absolument impossibles parce que le Canada non seulement sous-finance nos services, mais sabote des choses comme le français, l'immigration, intentionnellement. Tu ne peux pas rester là. Et donc, c'est le sens du devoir qui doit nous guider.
On jase ce matin avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu m'as ouvert la porte, parlons-en d'immigration, un sujet chaud ici au Québec. Ça serait quoi la politique? Vous proposez quoi comme politique d'immigration au Québec chez le Parti québécois?
Ça va être une réduction importante tant de l'immigration permanente que l'immigration temporaire. Sur l'immigration permanente, rappelons qu'au début des années 2000, on accueillait 30-35 000 personnes par année. Jean Charest a fait monter ça à 50 000 en disant « c'est pour combler la pénurie de main-d'œuvre ». François Legault a dit « plus que 50 000, ce serait suicidaire ». Première chose qu'il a faite, il l'a augmenté à 65 000. Et là, maintenant, les études sont claires. Ça ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre. Pire, ça peut aggraver la pénurie de main-d'œuvre lorsqu'on est en crise du logement parce que là, toute ta main-d'œuvre est là pour essayer de rattraper le retard en service, en adaptation, en logement. Donc, réduction importante de ce côté-là, mais surtout réduction très importante de l'immigration temporaire. Mais ça implique de pouvoir tenir tête à Ottawa, d'avoir un certain rapport de force, parce que ce que Ottawa fait dans un premier temps à Roxham, puis ensuite en changeant les règles à l'aéroport, c'est de dire partout dans le monde, vous pouvez rentrer au Canada avec un simple visa de touriste, on a allégé les règles, et notre intention, c'est de normaliser tous les sans-papiers. Donc, ça crée un engouement, ça crée une demande, mais il y a des milliards de personnes sur la planète. Et on n'est pas le seul pays à avoir ces réflexions-là. On voit en Europe, partout dans le monde, un resserrement des règles, parce que si on abolit les frontières, ben on n'a plus de démocratie, parce qu'on n'est plus capable de répartir les impôts en fonction des services qu'on veut donner, puisqu'il y a... Donc, ici, là, c'est une question de planification. Et là, Québec solidaire puis les partis libéraux du Québec vont dire il met la faute sur les immigrants. Premièrement, là, quand quelqu'un devient Québécois, il devient Québécois à part entière, il n'est plus un immigrant. Puis ensuite, il y a des milliards de personnes sur la Terre, et si on s'empêche de planifier le nombre de personnes, la maîtrise du français, les aptitudes, si on n'a plus de planification, bien, on va connaître des ennuis importants. Mais là où il peut y avoir une colère, c'est envers le fédéral et ses politiques absolument catastrophiques qui nous sont imposées dans le mépris complet du Québec. Puis évidemment qu'il n'y aura jamais de mauvais sentiments envers des gens qui veulent se joindre à notre société en sachant qu'on aurait fait la même chose dans la même situation. C'est simplement qu'il va falloir se donner des politiques qui ont minimalement du sens. La crise du logement, le recul du français et le recul des services est directement lié à ce que le fédéral a fait et à ce que la CAQ fait par la bande en étant passive puis en nous disant pas totalement la vérité sur ses échecs vis-à-vis le gouvernement fédéral.
Vous parlez de sous-financement aussi tantôt, ça m'ouvre l'idée au fameux transfert en santé, où là, on a reçu 900 millions du fédéral, on en espérait 6 milliards. Là, souvent, on entend toujours dire également, « Ouais, mais le Québec reçoit de la péréquation. » Êtes-vous capable de tout nous expliquer ça rapidement, là, pour qu'on comprenne bien comment les transferts du fédéral sont du sous-financement pour le Québec?
Bien, essentiellement, si c'était juste le Québec qui était bébé gâté, tu n'aurais pas eu la même demande dans toutes les provinces. Mm-hmm. Donc, sur la santé, les provinces se sont mis en équipe. Ils ont regardé historiquement ce que le fédéral prend dans nos poches puis ensuite nous retourne pour faire fonctionner la santé. Et les provinces s'entendaient pour dire que ça diminue constamment. Pourquoi? Parce que le fédéral est occupé à faire grossir sa fonction publique, à créer des nouveaux programmes. Mais pendant ce temps-là, les programmes de base, là, ce qu'il y a d'essentiel, le fédéral participe de moins en moins. Donc, d'où la demande du 6 milliards.
Et le retour de seulement 9 millions. Ouais. 900 millions,
900 millions. Donc, tu as un sixième de ce que tu as de besoin. Ouais. Et quand tu as des histoires d'horreur là, de gens qui meurent à l'urgence avant d'avoir vu un médecin, c'est sûr que si tu as 5 milliards de plus l'an prochain à chaque année, ça change tout. Mais ça n'arrivera pas dans le fédéral. Donc, quand je dis qu'on envoie 82 milliards au total à Ottawa, à même nos taxes et nos impôts, lorsqu'on rapatrie ces sommes-là, nous choisirons, en effet, d'investir beaucoup plus en santé puis beaucoup plus en éducation, notamment parce que ça va être la fin du dédoublement de tout ce qu'on fait déjà à Québec qui se fait à Ottawa. Ça va être la fin des deux rapports d'impôts. Revenu Canada, là, ça sert à quoi si on pourrait avoir un seul rapport d'impôts? Donc, tout ça va dégager de l'espace, nous donner aussi une santé financière pour qu'on ne soit plus dans la situation où on fait des déficits historiques de 11 milliards. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait le budget de l'an 1, pour montrer que la péréquation, en fait, était un élément dans un calcul beaucoup plus large de où vont nos 82 milliards. Et posez-vous la question, quel service obtenez-vous du fédéral en échange de presque la moitié de vos impôts? Et vous réaliserez que c'est sûr qu'on peut faire quelque chose de plus intelligent et de plus collé à nos besoins que ce qui se passe en ce moment dans le Canada.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, en terminant, avez-vous des plans pour le 8 avril? Qu'allez-vous faire pour l'éclipse solaire? Et je sais que c'est spectaculaire, mais c'est-tu un sujet qui a un peu débordé, là? On a-tu amené ça un petit peu trop loin, cette discussion d'école fermée ou ouverte pour l'éclipse solaire?
Non, moi, je la trouve intéressante, cette discussion-là. J'ai trois enfants, donc ma fille va à la maternelle. Puis on a la discussion chez nous, à savoir à quel moment on protège nos enfants constamment, puis qu'on est dans une mentalité de s'assurer qu'il n'y a rien, jamais une coche, jamais un risque, jamais rien. Ça vient de la politique, hein? C'est que les politiciens n'aiment pas quand la une du journal, c'est « il est arrivé quelque chose à tel endroit ». Et là, qu'est-ce que ça amène? Ça amène plus de contrôle, donc plein de paperasse, de conformité. Et donc, on ne laisse pas les gens travailler dans plein de secteurs, là. Au lieu de les laisser travailler, on leur fait remplir des paperasses de contrôle. Et ça donne des décisions où est-ce que là, on a peur de ne pas être capable de dire à nos enfants quoi faire pour ne pas regarder directement l'éclipse, alors qu'évidemment, ça se gère. Donc, Moi, je la trouve intéressante, la discussion. Elle s'en va également dans la bonne direction parce que là, je vois de plus en plus d'écoles, de milieux qui disent « ben là, on est sûrement capable de gérer une éclipse. »
Ouais.
Moi, je me souviens des éclipses plus jeune.
Aussi.
Bon, mais c'est ça.
Boîte de Kleenex.
Boîte de Kleenex.
Ouais, c'est ça.
Puis c'était plate. J'étais très déçu, là. Je trouvais qu'on voyait rien. J'étais vraiment insatisfait de cette histoire. Il m'avait promis qu'on voyait l'éclipse, puis j'ai rien vu. C'était n'importe quoi, cette boîte de Kleenex-là.
Ah, oui.
Mais est-ce que je suis devenu malvoyant? Est-ce que j'ai développé des problèmes de santé oculaire? Non, j'ai juste suivi leur instruction de regarder dans une boîte de Kleenex, puis je suis retourné avec à la maison avec ma boîte de Kleenex très insatisfait. Je me suis plaint à ma mère.
Mais j'aime ça ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu la notion du gros bon sens. À mettre tellement de règles, passées, tellement contrôlées pour qu'il arrive
suranalyser.
À rien. Ouais, on arrive un peu au bout du cycle de la réduction du risque. Puis là, je pense qu'on va réajuster.
Mm-hmm.
Puis ça vient aussi de l'époque des scandales. Là. Donc, le scandale des commandites, la commission Charbonneau, les réactions des gouvernements après, ouais. C'était de mettre du contrôle partout. Mais c'est vrai en intervention auprès de la petite enfance, c'est vrai dans le système d'éducation. Là, c'est tu contrôles tout le temps, mais il faut laisser les gens travailler. Si on veut que le gros bon sens soit là, il faut que tu dises aux gens, servez-vous de votre gros bon sens. Si on leur retire ça, puis on leur dit, remplis de la paperasse, puis conforme-toi, ça donne des situations potentiellement. Donc, je pense que oui, il faut plus de l'os. De toute façon, l'État québécois n'est plus capable de traiter de la paperasse. Il y a trop d'argent qui est voué à des choses pas pratiques, qui ne sont pas des services à la population. Donc, il y aura un ajustement qui s'en vient par la force des choses. On est allé un peu trop loin dans le contrôle de gens qui sont pourtant capables d'exercer leur GBS.
Moi, mon souvenir d'éclipse solaire, quand j'étais jeune, c'était une journée nuageuse avec une faible pluie. On n'a rien vu, puis la boîte de Kleenex est tout mouillée. Fait que voilà, c'est
et
ça.
Voilà.
C'est ça qui est ça.
Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'être passé nous voir ce matin à Boulevard 102.1. Courte pause et après, on vous annonce en grande pompe, finalement, ce magnifique concours qu'on vous propose. J'en dis pas plus.
Non,
dis
pas plus.
Denis Gravel va être avec nous, puis on vous annonce ça officiellement. Bougez pas. Boulevard 102.1.